Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prière. C'est un sujet certainement très classique, mais j'en parle encore après-midi et j'en parlerai encore d'autres dimanches en après-midi. Et du jeûne aussi. Et puis, je parlerai d'autres choses, d'autres éléments fondateurs de la vie chrétienne. C'était bien qu'on ait une heure de plus pendant la nuit. J'avais déjà passé du temps à Paris dans tout ça, mais c'est bien que c'était bien d'avoir une nuit un peu plus longue pour tout ça. Alors, nous allons voir que la prière chez le chrétien, la chrétienne, chez l'enfant ou la personne âgée, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu très important. Dans Jean chapitre 6, verset 65, je n'ai pas la petite Bible, j'ai travaillé sur la petite Bible toute la nuit, mais on vient de me rendre ma grosse Bible que j'avais prêtée depuis 2-3 semaines, un mois. Jean 6, 65, évidemment, ce n'est pas immédiatement le sujet de la prière, mais c'est le global de la vie. Donc la prière est inclue. Jésus ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si la foi en Jésus est un don de Dieu et du Père, il est clair que venir à Jésus dans la prière, c'est aussi un don de Dieu. Le don de Dieu est quand même là tous les jours pour venir à Jésus. Et il n'est pas possible humainement d'être régulier dans la prière et de venir en paix vers Jésus tous les jours sans que ce soit un don de Dieu. C'est un don. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, je vous invite à le demander, ou que des frères et des sœurs prient pour vous, même imposer les mains peut-être. Mais il faut avoir ce don. Il fait partie de la foi. C'est une base. C'est comme si je voulais marcher et que j'ai pas de jambes. Dieu m'a donné des jambes. Pourquoi il ne me donnerait pas la prière? Et au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la chair ne sert de rien. Tout ce que j'ai reçu par mon éducation, par ma sensibilité, par mes découvertes, ne m'amènera pas à connaître Jésus, ne m'amènera pas à avoir une relation de prière avec Jésus. J'aurai bien des idées sur Jésus, des notions, etc., mais ça ne me permettra pas d'établir cette relation profonde qu'est la prière et la foi. Et ça, évidemment, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie en nous, et cette vie en nous s'exprime à travers la foi et la prière. J'essaie d'expliquer simplement les mots. Regardons au chapitre 7, verset 34. Donc, chapitre 7, verset 34. Hein, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Donc, dans Jean, chapitre 7, verset 34, si c'est « je vais trop vite », arrêtez, ne cherchez pas dans la Bible, vous pourriez aller chez vous dans ces notes-là, quoi. Hein. Je vais essayer de faire des notes écrites et puis je les photocopierai comme elles sont. Les taper, je ne trouverai certainement pas personne pour taper ça. Et puis, il faut faire vite quand on tape, il faut se dépêcher parce que déjà la semaine d'après, elle est vite là. Hein. Alors, vous me chercherez, Jean 7, 34, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Donc, c'est clair, Jésus étant parti au ciel, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas tourner la porte là, le trouver là. Je ne vais pas aller voir dans ma chambre s'il y est. Ou dans une belle église avec des vitraux, etc., de belles croix, de belles statues. C'est comme ça qu'on trouve Jésus. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on trouve Jésus. Vous ne me trouverez pas. Jésus se refuse à être trouvé charnellement, humainement. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. Hein? Jean 7, 36. Vous ne me trouverez pas, mais vous ne pourrez pas venir où je serai.
34, donc, 34, verset 34. 36.
Jean chapitre 7, verset 36, vous ne me trouverez pas, vous ne pouvez venir où je serai. Et bien sûr, regarde au 36, et c'est répété, bien sûr, deux fois, c'est au verset 34. Évidemment, ça veut dire que, pourtant, Jésus veut une relation avec nous. Jésus veut être avec nous. Il l'a dit. Rappelez-vous, dans Matthieu, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, ça paraît contradictoire. Ça paraît totalement contradictoire. Des choses pareilles pour un être humain qui réagit avec la chair, avec la psychologie, c'est impossible, il ne peut pas s'en sortir. Quand quelqu'un vient et veut lire la Bible et venir au Seigneur, il faut absolument qu'il se fasse aider. Il peut tourner en rond pendant 30 ou 40 ans, ou 25 ans, il faut qu'il se fasse aider. S'il se figure qu'il va trouver le bon chemin tout de suite comme ça, il faut humblement demander de l'aide, il faut savoir que Dieu a mis une impossibilité humaine de le trouver. Mais il a mis une possibilité tout de même. Elle existe. Donc, dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus a le pouvoir dans le ciel, évidemment, mais sur la terre. Donc, sur la terre, il a le pouvoir de se faire connaître à moi. Il a le pouvoir de me donner la relation de prière. Il a le pouvoir de me donner la relation de confiance. Me donner l'éclaircissement sur sa parole. Les pouvoirs de Jésus sont complets. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. C'est évidemment ce pouvoir-là. Donc la dynamis, le pouvoir, sont en Christ. Si vous avez la page, dites-la à voix haute parce que d'autres vont piétiner, ils ne trouvent jamais les pages.
759.
Donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, si Jésus se manifeste aux anges et à toutes les créatures qui sont dans le ciel, Apocalypse chapitre 4 et 5, lisez-les souvent et méditez-les, parce que c'est là votre destination, ma destination, si je reste fidèle jusqu'au bout. Hein? Évidemment. Alors, pratiquement ce qui se passe, sur la terre, il a un pouvoir de m'établir dans une relation avec lui, de me choisir et de me donner une relation avec lui. Donc ce n'est pas humain, ça vient d'en haut. C'est le ciel qui débarque sur la terre quand la prière est donnée à quelqu'un, quand la foi est donnée à quelqu'un. Alors, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a donc déjà une première attitude, une première médiation de Jésus vers les hommes, vers ceux qui ne peuvent pas le connaître par eux-mêmes. Ce sont les chrétiens qui parlent en son nom. Les chrétiens qui parlent en son nom. Faites de toutes les nations des disciples. Didascalos des enseignés. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas faire le chemin tout seul. Il faut chercher des frères et des sœurs dans la foi et adhérer. Adhérer, c'est-à-dire avoir le sens de l'Église. Pas le sens du magasin, je rentre, je sors et j'y vais quand je veux. Le sens de l'Église, c'est parce que Dieu se sert des disciples pour enseigner. Je suis toujours content quand je vois comment parlent Michael et Vincent, franchement, j'attends qu'un jour d'autres soient en route sur le même chemin, ici. Le même chemin, qu'ils soient et ils fassent autour d'eux dans l'église des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un seul baptême dans Éphésiens, un seul Dieu, un seul Père, un seul Jésus-Christ, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, un seul baptême. Et regardez la comédie de toutes les sortes de baptêmes qui existent depuis des siècles. Il y en a un seul. Prenez bien ça, que Dieu n'en utilise qu'un. Et regardez bien ce qui se faisait au premier siècle. C'était le baptême de la foi par immersion. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a un enseignement. Ce n'est pas le tout d'être enseigné, c'est d'amener les personnes à l'obéissance. C'est-à-dire de se rendre compte que la chair ne dirige plus. C'est à part le Dieu qui dirige. C'est Christ qui dirige à travers sa parole. C'est évident que la tâche de l'Église est de donner cette transmission, cette prescription, et de donner ce goût de l'obéissance, cette façon nouvelle de vivre, parce que nous sommes des désobéissants par nature. Nous sommes dans la vanité depuis Adam et Ève. Et notre monde s'entend bien à mettre en valeur la désobéissance, la vanité. Et donc, nous allons à contre-courant. Quand nous devenons chrétiens, une église, en tout cas une église fidèle à sa parole, va contre-courant de la mentalité du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus affirme qu'il est là. Je suis, c'est le nom de Dieu. Dans le buisson ardent avec Moïse, et dans tout le livre de Jean, l'évangile de Jean, il y est de nombreuses fois. Je suis celui qui vous parle dès le commencement, etc. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte, je suis le berger des brebis, etc. Et tout, chaque fois, ego et ennemi, c'est le nom de Dieu. Donc, si Jésus est avec nous, la prière est possible. Et les moyens qu'il a donnés sont ici dans ce texte. Ok ? Je viens de faire le tour rapidement. On n'a pas toujours le temps de traîner. La prédication pourrait être plus longue. Mais souvent, moi, j'ai préparé et j'en ai pour... j'arrête, hein, le dimanche, c'est fini. Et puis, je vais aller, par exemple, une semaine en France prêcher une retraite. Là, j'ai 3 heures au matin, j'ai encore après-midi. Mais je prends la même prédication, mais avec toutes les notes qu'il y avait après. Je peux approfondir le sujet. Et chaque fois, chaque dimanche, j'arrête, et tac. C'est pour ne pas donner l'impression de lasser ou de plus même, j'arrête. Je vais autre part le dimanche d'après. C'est un peu dommage. Donc, dans Jean, chapitre 12, dans Jean chapitre 12, Jésus a promis quelque chose, et au verset 32, Jean chapitre 12, verset 32, quand j'aurai été élevé de la terre, donc c'est la mort et la résurrection, et la montée au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Le mot, bien sûr, dans le grec, parfois est indicatif de quelque chose de plus de précis, c'est je séduirai tous les hommes. Je séduirai les hommes. C'est une force qui touche le cœur, c'est une force qui touche les émotions, l'affection. Dieu donne une capacité d'affection pour lui. Et donc, c'est pas seulement avec les idées qu'on va vers Jésus, c'est pas seulement avec les oreilles, c'est avec tout le cœur travaillé. On est impressionné et touché par la personne même de Jésus. Et la présence de Jésus se révèle à nous, en fait, sous cette forme de séduction, cette forme de cœur qui s'illumine, les yeux du cœur qui voient que Jésus est là, est ce qu'il fait. Alors, évidemment, au verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. On sait très bien que Satan règne toujours, il a toujours ses œuvres, ses pompes, et tout ça, il fait son carnage, et il fait aussi ses séductions, il n'y a pas que Jésus. Mais où est-ce que dans le monde, Satan est jeté? Chez celui où Jésus s'installe. Dans celui qui accepte Jésus. Ce n'est pas seulement une vie ornée, embellie, hein, où les démons sont partis, et puis Jésus est parti. Non. Parce que alors les démons s'en vont, ils vont rechercher cet autre, parce qu'ils s'ennuient, ils reviennent à la maison, c'est le carnage, au niveau moral et spirituel dans la vie. Non, c'est pas ça. C'est quand l'homme fort s'installe dans la maison, alors la maison appartient à Dieu. Ça, c'est le... C'est Christ, évidemment. Donc, le verset 31 va avec le verset 32. Le prince de ce monde sera jeté dehors de mon cœur, de ma vie. Parce que vous savez, il aime bien ça, posséder les hommes, de les tenir. Hein? Il aime bien de les enfoncer, de les rendre esclaves. Alors, regardons dans 1 Corinthiens 12. Je n'en suis jamais qu'au don de la prière, au don de la foi. Mais imaginez, j'ai 7-8 pages. Sur la prière, 7-8 pages. Je suis souvent malheureux de ne pas aller jusqu'au bout. Je vous le dis. C'est comme si je commençais à semer dans un champ, et puis allez, j'ai tapé le blé en vitesse, et puis je m'en vais, je reviens à la fin de la saison. Non, en principe, c'est pas comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, en tout cas. 1 Corinthiens 12.
Là,
par exemple, je vous dis, par exemple, à plusieurs reprises, il y a un monsieur qui avait vu dans la gazette que je faisais des études bibliques à la maison. Et il venait voir sa maman dans la région, et il venait de 300 km. Plusieurs fois, il passait des heures et des heures ici à étudier la parole avec moi, parce qu'il avait des questions. Hein? Ce monsieur, maintenant, ici dans l'église. Mais ce qu'il y a, c'est que demain, pendant 15 jours, il y a une jeune femme du sud de la France, du Cap d'Ac, qui va être là pour étudier la parole de Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle est attirée vers Dieu et qu'il faut que aussi moi je prenne le temps d'exercer par la parole, par l'enseignement, ce que Jésus veut faire? Parce que moi je veux faire. Et ça serait malhonnête. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a un investissement qui est nécessaire pour recevoir la foi. 1 Corinthiens 12, versets 3 et 4. Et au mois de janvier, ben, c'est quelqu'un qui vient de Tanger. Ça fait des mois qu'il attend, il va venir. Et ça, c'est aussi plusieurs jours. Et de fil en aiguille, il faut bien se dire, c'est au mois de janvier pendant une semaine, mais ce qu'il y a, je vois une église où il n'y a plus de pasteurs, il y avait deux pasteurs, ils sont partis. Et cette église se rend compte, elle a été dépannée par un pasteur tout un temps, mais il est parti à Madagascar, elle se rend compte qu'elle a besoin d'être enseignée sur le point de doctrine, apprendre les chants, la musique, etc. Et ils sont venus jusqu'à Paris, à la réunion de pasteurs en été, pour dire, nous avons besoin. On ne va pas nous en sortir si vous ne nous aidez. J'ai proposé d'aller 3 semaines là-bas. Et c'est certainement pas pour fainéanter. Pourquoi? Parce que là, le travail du don de la foi est un travail des disciples pour que la foi soit établie, soit ferme. Et c'est dans l'œuvre des chrétiens de participer à cette tâche. Donc, il faut parmi nous des personnes qui se lèvent pour servir la parole. Ce qui est exigeant. 1 Corinthiens 12, versets 3 et 4, je pense, oui. Je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire hors de Dieu. Lors, pas d'intérêt, rien. Si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, s'il a l'Esprit Saint, s'il a reçu l'Esprit de vie, l'Esprit de Christ, il ne rejette plus Jésus. Il n'a pas cette répulsion ou cette négligence superficielle à l'égard de Jésus. Ou cette hostilité à Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur, donc Kyriou, c'est l'équivalent de Messias, Messie, Sauveur, Seigneur. Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, aucun homme n'a l'autorisation de dire à Jésus qu'il est Seigneur sans avoir reçu l'Esprit Saint. Dieu ne veut pas de ses prières où il n'y a pas eu la régénération, la nouvelle naissance. Toutes les prières sans nouvelle naissance, sans régénération, sont refusées à la porte du ciel et aux oreilles de Jésus. Donc, à la fois, pour pouvoir dire à Jésus, tu es dans ma vie et je ne te rejette plus, tu es mon Seigneur et mon Dieu, pas seulement mon Sauveur, tu es mon Maître, mon Guide, mon Berger, mon Consolateur, tu es avec moi tous les jours, c'est à toi que je parle, avec toi que je vis, c'est à toi que j'adresse la gloire, j'exalte ta gloire, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi, et pour ce que tu es, eh bien ça c'est par l'Esprit Saint. c'est par l'Esprit Saint. Et donc, fondamentalement, c'est vraiment un don, une activité divine en nous que la prière. Certes, il faut le savoir. Maintenant, évidemment, parfois on a dit c'est un ordre. Moi, je lis parfois des bouquins, comme j'ai été prêtre catholique, je lis parfois des bouquins orthodoxes ou catholiques. J'en lis encore. Et je me rends compte à quel point, avec l'ascèse, des méthodes spirituelles, on veut amener les gens à pouvoir prier. Mais l'essentiel, le noyau est négligé. Parfois pas. Il y a des gens dans l'orthodoxie comme dans le catholicisme qui ont saisi la profondeur de l'enseignement biblique et il ne faut pas jeter tout le monde dans le même sac. Mais souvent, on voudrait donner des trucs pour que les gens prient. Méfions-nous dans les églises évangéliques que ça vienne aussi. Hein. Ça, c'est dans l'instinct de tous les hommes, vous savez, religieux surtout. Et souvent des responsables. Alors, l'ordre n'est pas un ordre parce que c'est comme ça, j'obéis, je vais prier, donc ça, c'est ça la prière. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Je vais essayer de m'expliquer. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, versets 17 à 20.
892.
Je pense de tout. Oui, dites-le fort, hein, quand.
892.
Éphésiens, chapitre.
892.
Ça, c'est un belge. Éphésiens 5, versets 17 à 20. Oui, dans une assemblée, on reconnaît les Belges, hein, ou les frites, hein. Hein, 70, 90, mais d'un coup, 90. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un martien. Et quand on est à Paris, en tout cas, moi je fais gaffe. Hein. Bon, alors, 5, sur les faits Marie, il y en a qui s'adaptent vite, mais pas d'autres. Hein. 5, 17 à 20. Alors, ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, il ne faut pas vivre sans peser les choses, sans considérer les choses, c'est prendre du recul. Hein? C'est prendre du recul, c'est se dire, est-ce que j'ai vraiment raison? C'est comme ça qu'on doit faire? Ou est-ce que c'est autrement? Hein? La considération, c'est quelque chose, c'est une réflexion qui est pesée, qui est sérieuse, sage. Donc, c'est important. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, à mon avis, c'est pas si simple que ça de comprendre la volonté du Seigneur. S'il faut avoir de la considération et prendre du temps pour réfléchir. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Azelgia, c'est des règlements. Hein. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, il ne faut pas prendre des tangentes, des moyens d'avoir la paix. Quand on a des tourments, la peur, des inconvénients, des turpitudes, ça y est, je vais prendre du cannabis, ça y est, je vais prendre une bonne tamponne, ça va me passer. Ça y est, je vais aller regarder un film à TV, ça y est, je vais m'empiffrer. Tout ça, ça fait partie de la débauche, du dérèglement. Il n'y a pas que le vin. Hein. Soyez au contraire remplis d'esprit. Donc il faut s'orienter pour se mettre sous l'action du Saint-Esprit, qui va nous remplir. Tandis que le reste, hein, oui, ça nous remplit peut-être d'une autre façon. Hein. Mais ça finit toujours mal. Alors, tout de suite, être rempli de l'Esprit Saint, s'exposer à l'action de l'Esprit Saint et se laisser remplir, on en a les images concrètes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc les psaumes sont dans la Bible, les hymnes, ben, dans l'étagère, sur les chaises, hein, ou sur l'écran. Par des cantiques spirituels, donc il arrive qu'à un moment donné, plusieurs ici ont chanté un chant qu'on ne connaissait pas. C'est un cantique spirituel, c'est un cantique qui vient, qu'ils avaient mis en réserve dans leur cœur, en lisant, en apprenant, et puis tout d'un coup, ben, on a envie d'entendre autre chose, paf. Et spirituel, pourquoi? Ben parce qu'ils l'ont préparé, ils l'ont mis en réserve avec le Saint-Esprit pour le donner aux autres, le partager et le mettre devant Dieu. Le cantique spirituel, ça ne fait pas partie des chants mitraillettes qu'on peut répéter tout le temps. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc finalement, toutes ces méthodes, psaumes, hymnes, cantiques, spirituels, c'est pour chanter les louanges du Seigneur. C'est mes louanges du Seigneur ou c'est les louanges du Seigneur? Il faut se poser la question. Il y a des louanges préparées d'avance pour le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des louanges préparées et quand on est sous l'action du Saint-Esprit, ça vient. Ça vient. Si on se laisse conduire, les louanges sont préparées par Dieu. Elles ne sont pas préparées par nous. Bien sûr qu'on peut en préparer parfois, mais c'est avec le cœur, avec l'Esprit Saint. Alors, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce, donc l'action de grâce, pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc finalement, c'est honorer le Père, pour tout. Tout ce que nous avons reçu, même les difficultés, même les maladies, même les ennuis. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce, les amis. J'ai été opéré de deux hernies, j'avais travaillé jusqu'au bout. Ça a duré 3 heures, l'opération, hein. Ça aurait pu durer la moitié. Alors, pratiquement, j'ai pas eu mal. Mais j'étais épuisé, j'avais des coups de pompe, et puis ça tirait, ça piquait comme s'il y avait des aiguilles, si je voulais soulever quelque chose. Mais j'ai quand même bricolé, hein. J'en ai fait des trucs, hein. Alors, Alexandre est venu m'aider, puis il y a ici Benjamin, puis des autres. Et je me rends compte, il y a genre encore que 5 jours que j'ai été opéré, il y a encore que 10 jours. Mais je ne pouvais pas accepter d'arrêter et de tête. Alors pratiquement ce qui se passe, cette impatience, cette espèce d'activisme qu'on a installé en moi quand j'étais enfant, hein, bien cette impatience, c'est une source de folie. J'avais saccagé et tout. Eh bien j'avais mal au bras droit, en veux-tu en voilà, jour et nuit, mais c'était de la compote. Pas moyen de le soulever. Et j'ai dit à la chirurgienne, à la doctoresse, j'ai dit, vous savez, j'ai eu de la chance. Mon bras droit n'a jamais marché depuis que je suis opéré. Il est en compote. Je n'ai pas osé lui dire que c'était Dieu. Pas osé. Bon, je vais lui dire un autre jour. Je vais lui donner une Bible et tout. Mais ce qui a... Dieu m'a arrêté. Mon bras droit n'a jamais pu rien faire. Autrement, je retournais à la salle d'opération avec une éventration, des autres misères. Et ça durait combien de temps? Pourquoi le bras droit? Ben oui, ben c'est celui-là que je me sers tout le temps. T'imagines? Alors, je rends continuellement en grâce de ce qui arrive. Et c'est clairement Dieu le plus intelligent. Pas moi. Pas nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, pourquoi? Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne peux pas me présenter à Dieu le Père sans mon Seigneur Jésus. Je dois toujours me présenter à Dieu au nom de Jésus. Parce que par moi-même, je n'ai pas le droit de me présenter devant Dieu. Yavol. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, il y a une forme de crainte, une forme de retenue, de circonspection à son égard. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas tout net, hein. Ça va vite, ça dérape dans nos cœurs, dans nos vies. On n'est pas tout net. Il faut avoir la crainte de s'écarter de l'humilité, de la sagesse de Dieu, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cet ordre? Apocalypse 22. Apocalypse 22. Vous allez voir. Verset 9. C'est tout clair, c'est tout net. Combien de fois, je suis certain, quand Dieu a dit, le dimanche, le septième jour, c'est fait pour sanctifier Dieu et il ne faut pas travailler, combien de fois, moi quand j'avais l'entreprise et que j'avais du boulot, hein, parce que la maison ici n'était pas comme ça, c'était un taudis quand on est arrivé. Et la maison derrière n'existait pas. Plus l'entreprise, plus les réfugiés et tout. Et ben, des fois, le samedi et le dimanche, j'ai fait comme beaucoup. On ne me voyait nulle part, sauf en train de bosser. Mais j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. Et tout ce que j'avais voulu gagner en travaillant le dimanche, j'ai toujours reperdu. J'ai fait mes calculs, je me suis fait avoir. Parce que je suis appelé par Dieu à l'honorer et à le sanctifier. Eh bien, il me l'a fait payer. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça se corrige. Si on ne le corrige pas, c'est qu'on ne l'aime pas. Alors, il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte, hein. Naturellement, parce que quand on est têtu, on est têtu, hein. Et on a toutes des bonnes raisons d'y rester. Mais non, pas pour Dieu, ça ne marche pas avec lui. Un jour, il nous arrête, il nous cale. Alors, Apocalypse 22, verset 9. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jean a eu des révélations formidables, mais formidables. Et alors, il dit au verset 8, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. C'est un trésor de révélations. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'est montré pour l'adorer. Ça y est, il se met à adorer les anges. Ben, et vous savez qu'il y en a plein, hein, qui adorent les anges. C'est comme ça qu'ils se font voir, d'ailleurs. Parce qu'il y a des anges déchus. Comment les reconnaître? Ceux qui sont avec Dieu, les autres, ils ont des puissances de séduction. Donc, Dieu a réglé le problème, on n'adore pas les anges. Ils ne sont pas là pour ça. Et il me dit, ça c'est un ange honnête qui n'est pas déchu, il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, vous imaginez, il est là pour me rendre service. Et celui de tes frères les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc de tout chrétien biblique. De tout chrétien biblique. Paroles de ce livre. Adore Dieu, paf. C'est pas autre chose, hein. C'est pas Vierge Marie, c'est personne d'autre adore Dieu. Et tac. Donc vous voyez, c'est un ordre. Et c'est pas un pasteur qui le dit, c'est pas un pape, c'est pas un diacre, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle directement à Jean. Adore Dieu. Jean qui a vécu avec Jésus, Jean qui a connu plein de grâces, il a 90 ans, 95 ans. Et voilà qui se mettrait à prier les anges. Et il faut encore Dieu qui lui est top. Vous voyez comment on est un petit peu... Chaque fois qu'il y a une savonnette, une peau de banane en dessous de nos pieds, on y va. Dieu ne veut pas qu'on dérape dans des égarements de ce genre-là. On ne prie pas les saints, on ne prie pas les morts, on ne prie pas les anges. C'est adore Dieu. Donc, l'ordre est précis, pourquoi? Parce qu'autrement, s'il n'y a pas d'ordre, je vais improviser la prière, je vais partir dans tous les sens, et puis je vais rencontrer les autres. On aura tous raison de prier de la façon qu'on veut. Et on sera tous des frères, parce qu'on prie tous. Mais non, on ne sera pas des frères, parce qu'on ne prie pas comme Dieu l'a demandé. On sera tous en enfer, oui. Alors, c'est clair qu'il faut choisir ce que Dieu a dit et pas autre chose. Dans, je pense que c'est chapitre 6, mais je ne sais pas si c'est Éphésiens, je m'excuse, il faut que je regarde. Chapitre 6 de l'Apocalypse, sinon il faisait tard, c'était tard dans la nuit, verset 18. Ben, il n'y a pas de 6-18, c'était dans Éphésiens, c'est pas grave. On ira une autre fois dans Éphésiens. L'ordre est clair, où on va dans Éphésiens, on va voir ce que j'avais oublié. Éphésiens 6-18.
Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Payez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints.
Voilà. Alors, faites en tout temps, c'est jour et nuit, par l'esprit, donc l'Esprit Saint. Le seul qui peut nous diriger quand on demande la prière. Pas la chair. Toutes sortes de prières et de supplications. Donc c'est varié. Suivant les circonstances, suivant les personnes, c'est varié. Mais c'est toujours pour Dieu. Ce n'est pas les bigoteries qu'on peut avoir appelées à droite et gauche. Et ou qu'on peut inventer avec l'aide du diable. Veille à cela avec une entière persévérance. Donc veillez, c'est Blaipéo, c'est... Regardez sur vous-même. Faites gaffe. Il faut prier comme Dieu l'a demandé. Et avec une entière persévérance, pas quand on veut, quand ça m'arrange, quand je pourrais. J'ai fait ça des années. Et je le fais encore. Hein. L'entière persévérance, il faut chaque fois qu'elle se rallume. Hein. ça y est, il faut. Pour, et c'est pour qui ? Prie pour moi ? Mais non, pour tous les saints, pour tous les chrétiens. Et donc, quand on se réveille la nuit, si on ne dort pas, eh bien, au lieu de dire je ne dors pas, je vais prendre des cachets ou je vais aller regarder la TV, ben non, je vais prier pour les membres de l'Église. Je vais prier pour les chrétiens dans le monde. Je vais prier pour ceux qui, demain ou maintenant, sont en train de donner leur vie pour Christ, qu'on torture, qu'on viole. Je vais prier pour celui qui est en train de partir, qui meurt et qui part auprès du Père. La prière, c'est jamais fini quand on a compris que, ce que c'est. Et regardez ici, en plus, voilà un exemple flagrant, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, librement, le mystère de l'Évangile. Et il est en prison. Que je fasse connaître hardiment, librement, le mystère de l'Évangile. Donc pour le moment, Mylène et moi, on est en train de lire deux livres sur des chrétiens baptistes qui ont été dans les stalacs, dans tous les camps en Sibérie, qui ont été martyrisés, et quelle liberté, quelle force qu'ils avaient. Ils impressionnaient les pires des communistes. Mais ils étaient impressionnés, ils étaient touchés, mais bon, si bien, 3 ans après, on les fusillait. Parce que, mais en tout cas, ils sont au ciel. Mais ils ont gardé le chemin avec fermeté, avec faiblesse. Nous n'avons pas de persécution et nous manquons souvent de fermeté. Alors, le troisième point, c'est que la prière, c'était un don, c'était un ordre, c'est maintenant centré sur Jésus. La prière est toujours centrée sur Jésus-Christ. Il y en a des choses à déblayer dans le christianisme. Hein? Pourquoi ? Sur Jésus-Christ, pour le Père. Parce que Jésus est venu pour son Père. Et Jésus nous ramène à son Père. Donc, nous nous centrons sur Jésus-Christ pour aller au Père. C'est par lui qu'on a accès au Père. Ok ? Le Père des cieux. Alors, Jean, chapitre 10, verset 21. Bon, après-midi, je continue de toute façon dans ce domaine-là, en dehors de l'intercession, de la prière, du temps de silence qu'on aura. Mais, Jean 10, 21. Je ne suis pas trompé. Alors mon petit coco, 24. Ah oui, d'accord. C'est un peu plus loin. Hein. Je commence au verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Donc c'est des hommes religieux hein, qui lisent la Bible. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Est-ce qu'il n'y a pas ? Jean, chapitre 10, verset 24. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Je voudrais vous dire ceci. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans la prière, on est quand même fragile. Nous sommes des humains. C'est pas simple, hein ? Eh bien, on peut dire à Jésus, Seigneur, franchement, je peux te le dire, je voudrais bien que tu te fasses connaître, que tu me dises franchement qui tu es. C'est une supplication essentielle. Une supplication essentielle. Bon, j'ai des voisins ici, ils ne cherchent pas à causer avec moi. Et moi, je ne cherche pas à les connaître. Misère. Je peux peut-être prier Dieu, oui. Un jour, ils ont envie de nous connaître et que moi aussi, je réponde dans l'autre sens. Misère. Quand vous allez sur les trottoirs en ville et que vous dites bonjour, ils ne vous répondent pas. Mais ce qu'il y a, moi, je me plais à faire ça, je vais sur les trottoirs et je passe, je dis bonjour. Eh bien, figurez-vous, parce que j'ai pris avant, il y en a qui répondent. Ah, je prie avant. Pourquoi ? C'est pas une vache, c'est pas une guenon que je rencontre. C'est pas un singe, c'est pas un moustique que je rencontre, c'est un être humain avec une conscience. Et pourquoi il ne me dirait pas bonjour et moi lui dire bonjour? Mais je peux pas forcer, je peux pas embêter les gens. Mais je vais d'abord prier, et ils seront pas embêtés. Ils seront attirés ils seront poussés à répondre. Pas tous, mais enfin, il y en a. Et moi, je suis content. Et dans l'hôpital l'autre jour, j'attendais la spécialiste. Elle courait partout. Mais moi, j'attendais, j'étais à la salle d'attente. Salle d'attente infâme, où tout le monde reste là sans bouger. Infâme, j'appelle ça infâme. Hein, parce que moi, je n'appelle pas ça vivre. Hein. Alors, il arrive une dame, paf, elle passe devant moi chez la spécialiste. Et puis, les autres me disent, mais vous l'avez laissé passer ? Je m'en fous complètement, je dis, moi, je prends le temps de vivre, on ne peut pas se battre pour ça, je dis. Et on ne pas ça. Non, hein. On est sur terre pour s'entendre, hein. Il faut de la patience envers les uns les autres. Ça y est, ils me regardent, ils se disent, c'est pas normal celui-là. Alors, tout d'un coup, la porte s'ouvre, la dame ressort avec sa fille, en disant, on s'excuse, hein. Mais c'était pas à nous de passer, hein. C'était à vous. Mais madame, vous y êtes, restez-y. Allez, réglez vos problèmes et moi je rentrerai après. Et je riais. Je dis, elle est bien bonne, hein, c'est une bonne farce pour moi. Hein. Alors, elle ressort, elle dit, mais comment ça se fait, vous riez, vous? Vous riez, les autres, ils seraient fâchés. Mais comment ça se fait? Ben, écoutez, on est sur Terre pour rire, se sourire, s'aimer. Ben oui, c'est vrai. Je l'ai toujours fait, mais il faut le croire jusqu'au bout alors. Il ne faut pas vous étonner que vous en rencontrez un autre de temps en temps. Il faut le croire jusqu'au bout. Et puis je lui dis, il faut demander à Dieu que tout le monde rit, que tout le monde sourit, que tout le monde ait envie de rencontrer les autres avec un sourire. Eh bien moi quand je rentre dans l'hôpital, j'ai prié, je l'ai dit, j'ai prié pour rencontrer les gens, avoir un sourire pour eux et qu'ils en aient un pour moi. Si vous rentrez comme un abruti quelque part, vous sortirez comme un abruti. Si vous rentrez comme un congélateur, vous sortirez comme un congélateur. Vous n'aurez jamais que ce que vous avez voulu recevoir. C'est pour ça que Dieu dit, vous demandez peu, vous recevrez peu. La prière, c'est une clé pour l'art de vivre. La prière, c'est quelque chose qui conduit la vie pour être comme Dieu le demande. Donc, ici, moi, je trouve que c'est très important. Il y a quelque chose, dis-nous qui tu es. Moi, je trouve que quand on va pour prier, ben, moi, j'aime bien que Jésus me dise qui il est. J'aime bien que, quand je lis les textes, d'apprendre encore quelque chose sur Jésus. Et quand je prie, je me recueille, de qu'il me révèle quelque chose de lui. Hein? Pourquoi c'est mis clairement dans Matthieu chapitre 11 ? Que Jésus connaît le Père et qu'il va le révéler aux enfants. Il va le révéler aux enfants. C'est Jésus qui nous révèle le Père. Si Jésus a cette capacité de me révéler le Père et de se révéler à moi, pourquoi je ne lui demanderais pas? Il faudrait être bête pour ne pas le demander. Ou alors, il faut avoir rien compris à la prière. La prière, je suis tout seul, je raconte mes histoires, je récite, et puis... Mais ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est la découverte, la rencontre de Christ et du Père. Et c'est toujours un don. C'est lui qui donne. C'est lui qui dit qui il est. Et ça, c'est important, ce verset-là, dans 10, 24, hein, c'est ça, oui. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Eh bien, Jésus, pour moi, veut le dire franchement qui il est. Il a ce souci de se révéler. Hein? Alors Jésus répondit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alors, il y a deux façons. Soit on est une brebis, soit on ne l'est pas. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Donc, dans la prière, parce que tout le monde veut prier, même le diable, hein, on le voit dans la synagogue de Nazareth et de Capernaum, il y a des gens là qui sont possédés et ils veulent prier. Jésus les fit taire, les menaça. Tu es le Saint, le véritable, le Saint d'Israël. Ben, Jésus les a fait taire. C'est la comédie du diable, ça. Mais ce qu'il y a ici, si vous êtes mes brebis, vous entendez ma voix. Donc, quand Jésus enseigne quelque chose dans la parole, ou par l'Église, par quelqu'un de l'Église, qu'on l'aime, qu'on va plus loin, et qu'on apprend à le connaître, Jésus a vu que je me situe comme une brebis, comme son enfant. Il l'a vu. Eh bien, il va continuer à se révéler. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est immédiat, si j'ai cette attitude, verset 28, je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Quand Jésus se donne à moi, je reçois la vie éternelle. Quand Jésus s'installe dans ma vie, il me donne, il est vie éternelle. Donc je reçois la vie éternelle. La communication, la relation avec le Dieu vivant en Jésus-Christ. Et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, si j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Père. J'appartiens au Dieu qui a créé tout l'univers, imaginez. J'imaginez l'importance d'aller vers Christ, parce que c'est l'accès au Père. Donc, nous allons dans Jean chapitre 5, verset 37. Les cloches ont sonné, donc on ne pourra plus durer longtemps. Jean chapitre 5, verset 37. Le Père qui m'a envoyé. Hein? Jean chapitre 5, verset 37. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Donc c'est clair, hein? Sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Si vous ne croyez pas en Jésus, c'est clair, j'essaye de décrypter, toute parole qui vient de Dieu ne peut pas être implantée en moi. Toute révélation de Dieu, toute connaissance de Dieu est impossible. Il faut absolument que je croie dans celui qui l'a envoyé, donc Jésus. Jésus est le médiateur, indispensable à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que dans l'épître de Jean, Jean dit « Celui qui a le Fils a le Père ». Ou que Jésus dit à Philippe, Philippe lui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffira ». C'est quand même formidable ça, je trouve. Hein? C'est un brave type ce Philippe. Hein? Et sûrement que tous les copains alentours avaient pensé la même chose. « Montre-nous le Père, cela nous suffira ». C'est vraiment des gens désireux d'être avec Dieu, ça. C'est beau. Puissions-nous être comme ça, hein? Dans une église, même autre part. Mais ce qui a... Jésus répond, mais Philippe, il y a si longtemps que nous sommes ensemble. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Le film Philippe s'est encore gratté la tête. Mais c'est venu après, c'est venu. Avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de l'Esprit Saint, il a compris que le Dieu vivant était incarné en Jésus. Il était avec lui, à ses côtés, pour le diriger, pour l'enseigner. Quand même formidable. On n'est pas seul. Jean chapitre 3, verset 30. Jean chapitre 3, verset 30. Quand on est dans la prière, hein, vous vous mettez dans un coin tout seul, à genoux, à plat ventre, assis sur une chaise. Il faut varier les positions de temps en temps, mais ce qu'il y a, il faut montrer qu'on est dans l'attente, qu'on est dans la dépendance et qu'on a vraiment envie de recevoir. C'est ça qu'il faut montrer. Quand un chien, il vous voit, vous amenez la pâté au chien. Ben, je vais vous dire que vous devez faire ça dans la prière, mais trouvez le moyen de montrer à Dieu que vous l'attendez. Jean, chapitre 3, verset 30. Je m'y retrouve. Hein. Il fait sombre ici. Vous voyez, ici, vous avez un Jean-Baptiste qui est formidable. Un Jean-Baptiste qui va être arrêté, qui va perdre sa vie. Il a fait son boulot. Il a vu que Jésus guérissait les lépreux, faisait marcher les estropiés, guérissait les aveugles. C'est l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, 40 à 42. Donc la bonne nouvelle est là. Le vrai Messie est là. Tous les signes sont là. Donc, lui, il dit... Regardez bien. Eh bien, ça, c'est pour nous aussi. Chapitre 3, pour lui laisser la place. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je veux grandir en Christ. Si je veux grandir en Christ, il faut que je diminue. Tiens. C'est comme si on disait, j'aime bien les carrés, mais j'aimerais bien qu'ils soient ronds en même temps. Un carré qui est rond. Vous avez déjà vu ça, vous? Alors, moi, je veux grandir, mais il faut que je diminue. Ben oui, Jésus l'a dit, celui qui me donne sa vie, la perdra. Mais s'il veut la conserver pour lui-même, hein, celui qui me donne sa vie, la sauvera. Pardon, la sauvera. Celui qui veut la garder pour lui-même, la perdra. Ça, à 16 ans, ça a été radical. Hein. C'était le médicament antidépressif, anti-solitude. J'ai avalé, ce jour-là, c'est le kérosène. Pour le reste, hein, jusqu'au bout. Alors, comme le bout n'a pas de fin, c'est pour toujours. Alors, il faut qu'il croisse que je diminue. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, il s'agit de Jésus. Celui qui est de la terre est de la terre, ça c'est nous. Il parle comme étant de la terre, ça c'est nous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus, ça, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Ben nous, on a envie de le recevoir, son témoignage, tiens. On a envie qu'il nous dise qui il est. C'est ça la prière. C'est ça la relation vivante avec Dieu. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc Jésus a les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. L'Esprit Saint est pleinement en Jésus. Donc si j'accepte Jésus et que je lui dis « Révèle-toi à moi », il est rempli de tous les moyens de se faire connaître à moi. Parfois, pendant des années, on demande, on reçoit des petits morceaux. Des petits morceaux, c'est comme ça Dieu. On va voir s'il est patient, on va voir s'il est sérieux avec moi, s'il ne veut pas monter sur le dos, si c'est vraiment moi le Seigneur. Ça dure. Et c'est patience, patience. Et puis tout d'un coup, il y a un jour, c'est l'explosion. Boum. Pourquoi ça? Parce que c'est lui. C'est lui, tu as été gentil, mais aujourd'hui, tu auras un beau gâteau avec des bougies dessus. Tiens, je vais faire ton anniversaire. Moi, je me rappelle être rentré dans une église un jour. C'était une retraite, je vais écouter la retraite et tout. Et puis, je m'en vais, je trouve une église ouverte. Il y a quelqu'un qui jouait de l'orgue. À 11h30 du soir, il s'en va. Mais il les a portes ouvertes, enfin, entre-ouvertes. Moi, je reste là. Et je me plaisais bien là, je priais. Et puis, à un moment donné, je n'ai pas vu quand ça a commencé, mais ça a duré toute la nuit, tous les murs étaient blancs comme ça, couverts de lumière. Tout était couvert d'une lumière, mais pas aveuglante, une vraie lumière. J'étais en paix. Je me suis mis à genoux. Je me suis mis debout. Je me suis mis assis. Et je suis parti au boulot à 6h du matin. Et je n'étais pas crevé. Je n'étais pas fatigué. Et qu'est-ce que j'ai compris? Une parole de Don Jacques. Mais c'est comme ça. Ça, c'est quand Dieu met un gâteau avec des bougies d'anniversaire. Hein. De temps en temps, il fait ça. Pas toujours l'anniversaire. L'anniversaire de la foi. Demandez ça de temps en temps. Eh bien, pratiquement, le Seigneur m'avait béni, je suis parti au travail. Et moi, j'y allais pour faire connaître Jésus. J'étais prêt à oublier. J'y allais avec Jésus. Évidemment. Mais pas tout seul. Au chantier. Dans l'usine. Ce qu'il y a, Dieu est le resplendissement de la gloire du Père.
Jésus.
Il est le resplendissement de la gloire du Père. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Il est l'empreinte de sa substance, de sa personne. Dans Colossiens 1, 15. Il est l'image du Père.
L'image visible.
Visible, invisible. Il est la lumière du monde. Ben, je veux vous dire que cette nuit-là, comment voulez-vous que j'oublie ça? Alors au ciel, tout est lumière. Ah ben, je suis retombé sur ce que je voulais dire. Dans Jacques, l'épître de Jacques, il est le père des lumières, dans lequel il n'y a ni ombre ni variation. Mais de la nuit, je n'ai pas vu ça clignoter, ça s'éteignait et tout ça, hein, non. C'était d'une paix, mais d'une paix. Une autre fois, c'était ici, bien j'ai vu, et ça c'est assez étonnant, j'étais là depuis longtemps, comme un parfum. Comme si on avait renversé une bouteille de parfum, mais d'un parfum, je m'y trouvais autre part. Hein. Mais Seigneur, c'est toi. C'est pas moi qui peux sentir si bon. C'est toi, Seigneur. C'est toi. C'est au ciel que ça sent bon comme ça. Les parfums, ils sont l'image de la gloire de Dieu. Et aussi les cadeaux de l'adoration. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas avoir des gâteaux d'anniversaire. Mais si vous ne les attendez pas, vous n'en aurez jamais. Il faut savoir, tous les jours, recevoir un petit peu. Mais un jour, Dieu dit, allez, bon, moi, je t'en mets un bon paquet. Je te vide le camion devant la porte, au lieu de te donner un petit sachet. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez dire merci. Parce que le lendemain, ça ne sera pas comme ça. Vous n'allez pas courir pour avoir les mêmes cadeaux. ou un super cadeau. Il ne faut pas faire l'enfant difficile avec Dieu. Il faut dire, j'ai rien reçu aujourd'hui, apparemment Seigneur, apparemment, j'ai rien ressenti, mais je suis avec toi. Je te loue, je te rends grâce. Hier, j'ai ressenti des choses formidables, j'ai vu que tu étais là, mais aujourd'hui, je sais que tu es là. Et ça ne change rien pour moi, parce que tu m'aimes et je t'aime. Voilà la prière. La prière qui déborde du cœur. Donc, est-ce que j'ai fini ce point-là? Elle est centrée sur Jésus, c'est ça que je voulais vous faire connaître. Éphésiens 1. Comment que c'est possible que nous, qui sommes comme des taupes, hein, parce qu'on est des taupes, hein, franchement, une taupe, qu'est-ce que ça fait? Ça vit dans les galeries, ça ne voit rarement le soleil. Ça pousse la terre, ça fait une bosse, et poup, ça repart. Hein. C'est hop, ça aime l'obscurité. Nous, on est des taupes. Instinctivement, on aime l'obscurité. On craint Dieu. Puis on se dit que je ne connaîtrai jamais, donc. Alors, mais si Dieu nous illumine les yeux de notre cœur, nous ne sommes plus des taupes. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous avons vu clair. Il a ouvert les yeux de notre cœur. Éphésiens 1. Et ça, c'est des cadeaux formidables. L'illumination du cœur. C'est pas de la théorie, c'est de la réalité, de la prière, de la vie de foi. Qui aime s'est penché dans la prière. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Alors, je vais lire, hein, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vous voyez ? Formidable. Ce que je souhaite qu'on fasse chacun, l'un pour l'autre, ici. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Là, alors, c'est vraiment comme ça qu'une église démarre et croit. Et fait de la croissance. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation. Vous voyez que c'est Dieu qui éclaire, qui tire, qui fait de la taupe, il en fait quelqu'un qui voit. Qui fait de l'aveugle, quelqu'un qui va connaître Dieu. Hein? Et un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je suis appelé par Dieu tous les jours. Je vais au boulot. Je fais mes casseroles. Je lance le petit plein de claquins. J'enseigne. Je vais travailler au bureau. Mais je me laisse envahir. J'ignore l'appel de Dieu. C'est de temps en temps quand je vais au culte ou que je lis ma Bible. Mais non. Il y a une prière implicite. Il y a une prière secrète du cœur. Où tout le temps, il faut dire à Dieu, tu m'as appelé, je suis avec toi. Tu m'as appelé, je veux être avec toi. Que ce soit au boulot, n'importe où. Et sois avec moi, Seigneur. Comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, Seigneur. Les disciples d'Emmaüs, quand ils ont dit ça à Jésus. Notre cœur est brûlant. Bon. C'est qu'un choix de nous. Si je veux oublier, sur les 24 heures, je veux oublier pendant 23 heures l'appel de Dieu, ça ne tient qu'à moi. Mais si je demande pardon le jour d'après, tiens, pendant 10-12 heures, tout le temps en travaillant, j'ai pensé que le Seigneur était là, je me suis adressé de temps en temps à lui, et personne ne l'a vu, mais je me suis adressé dans mon cœur à lui, dans mon âme. Parce que je sais que je suis élu, je suis attaché à lui, il s'est attaché à moi. Sur la croix, il s'est attaché à moi. Pécheur. Alors, il illumine les yeux de votre cœur. Vous sachez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Si Jésus a une infinie puissance, comment? Dans toutes mes journées, il ne va jamais me parler. Il ne va jamais être avec moi. Alors c'est le petit Jésus là, ça. Je vais regarder un film à la TV parce que je n'en sors plus, je vais regarder un film sur Jésus de Nazareth. Hein. Oui. Alors, je vais aller relire 5 minutes de la Bible. Pourquoi? Parce que je ne compte pas sur sa puissance, je suis tellement à plat, les batteries sont à plat, tout le bazar est à plat, alors je prends des moyens artificiels. Alors que Jésus est vivant, il est là. Comme pour un incroyant, il a besoin d'un film, D'accord. Mais nous, ce n'est pas un film suppositoire qui va nous faire grandir notre foi. Ce qui fait grandir notre foi, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi? Parce que, regardez bien, à la fin, au verset 22-23, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous sommes l'immense réservoir de quelqu'un qui peut le remplir. L'Église est comme une plénitude. C'est un immense réservoir que Dieu, parce qu'il est tout-puissant, infiniment grand, peut remplir. Donc quand je vais au travail, il peut me remplir. Quand je suis en auto dans les bouchons, il peut me remplir. Mais pour que ce que je vis avec mes conditionnements d'avant, il faut que je naisse à la vie nouvelle. Il faut que je n'oublie pas que Jésus est là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne faut plus que je vive comme l'être adamique, séparé de Dieu par le péché. Il faut que je saisisse la communion que Jésus me propose, la relation qu'il me propose. Alors, c'est évident pour moi, c'est la prière implicite qui ne s'expose pas devant les autres, hein, qui n'est pas, tiens, je vais me mettre sur ma table avec la Bible à la maison, mais je suis dans l'auto, je suis au travail, la prière implicite, la prière secrète du cœur. Mais ça, c'est 23h30 sur 24, ça. Ou c'est 21h sur 24. Hein? C'est celle-là que Dieu attend de nous. C'est celle-là. Alors, quand deux personnes, un homme et une femme, s'aiment, ils sont partis travailler à des endroits différents. Hein? Ils ne se voient pas. Ils sont pendant 18 heures absents l'un de l'autre. S'ils prennent l'habitude de ne jamais penser à l'autre pendant les 18 heures qu'ils sont séparés physiquement, ça finira mal. S'ils ont toujours, pendant qu'ils sont en train de travailler, ils pensent, tiens, je pense à ma Caroline. Ah, je vais prier pour elle. Ah, ma Caroline est en train de faire ci, faire ça. Oh, je lui ai donné un petit coup de téléphone. Hop. Ah, ma Caroline, elle a mis quel soulier aujourd'hui. Oh, elle était pas mal, elle, sa petite jupe. Et puis, ma Marielle, elle fait quoi là? Eh bien, pratiquement, qu'est-ce que je fais? Je mets du bois dans le feu. C'est-à-dire que j'entretiens ma relation. Ça, c'est l'amour implicite. L'amour implicite pour celui avec qui je vis. Et l'amour implicite, s'il n'y en a pas, ça veut dire que je m'habitue à ne pas vivre avec. Mais quand je vais rentrer, on va se bouffer le nez. Ou on va s'ignorer. Ou je ne sais pas quoi. Paf devant la TV, l'autre paf devant son jardin, je ne sais pas quoi, tondu sa gazon. Et ça y est. Ça va durer combien de temps ce truc-là? Jusqu'à l'enterrement? C'est là qu'on va pleurer? Aïe aïe, c'est pas ça que Dieu a demandé dans la vie du couple. Eh bien, pas non plus avec Dieu. Avec Dieu, on vit avec lui tous les jours, partout. C'est ça la prière. Et il n'y a pas de prière, il n'y a pas besoin d'un prie-Dieu, d'une cathédrale, d'une basilique. Ok? C'est la prière du cœur. La prière où, dans mon cœur, la voix qui m'appelle à aimer Jésus est plus forte que la voix de mon égoïsme qui m'isole de lui. La voix du péché. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Jésus. Donc, Éphésiens 2, 14. Hein? 2, 14. Ah, ben, je commence au 13. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a conquis mon être de pécheur. Il a brisé mon péché. Il me donne sa vie. Par son Saint-Esprit, je peux être en communion avec lui. Par son Saint-Esprit, je peux être tout à fait avec lui tous les jours, à tout instant. Il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Avec Jésus, je ne fais qu'un. Et il n'y a plus d'inimitié, il n'y a plus de séparation. On est ensemble, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il a établi un seul homme nouveau en moi. C'est lui qui l'a établi. Je n'en suis incapable. ça c'est clair. Et c'est lui qui m'a réconcilié avec Dieu. Parce qu'il a détruit en moi, verset 16, l'inimitié. Ben oui, hein. Combien de gens disent qu'ils aiment Dieu, ils vont mettre une bougie, ils vont faire une procession, je ne sais pas quoi. Mais ils courent toujours, hein. Ils ne sont pas amis de Dieu. Hein. Ils calculent ce que Dieu peut leur donner. Ou ils en ont tellement peur qu'il faut qu'ils fassent des œuvres pour se racheter. C'est pas ça, c'est pas ça l'amitié. L'amitié est solide avec Jésus. C'est Jésus qui a dit que nous étions plus ses serviteurs, mais ses amis. Donc c'est clair. Il y a quelque chose de phénoménal dans la relation de prière avec Jésus. Et c'est, on aboutira la fois prochaine à ça, quand je prie, ce qui est le plus beau, mon peintre père, c'est sa prière à lui. Et ça, on va, dimanche prochain, en parler, l'après-midi, pour ceux qui restent, sa prière à lui, de Jésus, Jean chapitre 17. C'est sur celle-là que je dois regarder pour savoir comment je dois prier. Voilà. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas des malheureux, nous ne sommes pas des orphelins, nous n'avons pas...